Mortimer! Ah, mon cher Black! Désolé d'interrompre vos vacances, Mortimer, mais ça va mal!
Nesta!
Oui, monsieur?
Faites mes bagages!
Bien, monsieur!
Mais capitaine, vous n'allez pas...
Inutile d'insister, je lève l'ancre!
Corne debout! La barre à bâbord, tout! Arrêt à virer!
Alix, laisse ton bouclier, viens!
Vite! Les gladiateurs gagnent sur nous!
Captivant, captivant.
Allô?
Commandant Moran?
Oui?
Mon lieutenant, vous me laissez faire équipe avec Tanguy, s'il vous plaît?
Accordez la verdure, ah, vous merci. Parlez avec Tanguy.
Captivant, captivant. Le magazine de la bande dessinée.
Voici Raskar Kapak, celui qui déchaîne le feu du ciel.
Captivant, captivant.
Tanguy, Michel Vaillant, sur Vaillant de numéro 10.
Captivant, une émission de Marc Dacier.
Je bois le restant de ma gourde de potion magique. Et on y va.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous vous proposons ce soir une émission spéciale réalisée par Christian, consacrée à une période bien précise de l'histoire du continent nord-américain. Une période qui a énormément inspiré les auteurs de bandes dessinées et les inspire toujours, la conquête de l'Ouest. Tout au long du 19e siècle, cette conquête territoriale a concerné des milliers d'individus qui se sont déplacés vers l'ouest de l'Amérique du Nord pour des raisons très diverses. Les uns allaient chercher fortune, les autres espéraient tout simplement trouver de meilleures conditions d'existence. Nous verrons comment la BD nous présente les premiers occupants du continent, amérindiens et premiers pionniers, avant de décrire la façon dont le mythe de la frontière est illustré dans la bande dessinée. Enfin, nous passerons en revue quelques-unes de ces figures du Far West qui foisonnent dans nos albums préférés, le cow-boy, le shérif, l'aventurier et autres grandes figures historiques.
J'ai l'impression que notre accoutrement fait sensation ici, Milou. Eh bien, Milou, qu'en penses-tu? Et maintenant, il nous faut un cheval.
Mais bien sûr, je crois que j'ai là un cheval qui fera votre affaire. Il est facile à monter, il est très doux, il s'appelle Béatrice.
Bonjour, Béatrice. Il est pas mal, mais vous n'auriez pas le même en plus clair? La robe de celui-ci ne me convient guère.
Je vais la vous donner en entière satisfaction.
Oui, il me semble moins colérique. Prêt, Milou?
Captivant, divan.
Shenandoah, I love you, don't go.
Thank you.
Captivant, le magazine de la bande dessinée sur RVE s'intéresse ce soir à la conquête de l'Ouest. Dans les années 1780, des ordonnances proposées par Thomas Jefferson sont votées par le Congrès au sujet des territoires du Nord-Ouest situés au nord de l'Ohio. En 1787, il est prévu qu'une fois ouverte à la population et arpentée, une région deviendra un territoire sur lequel un gouverneur, un secrétaire et un tribunal de trois juges nommés par le Congrès auront autorité. Il va de soi que le gouvernement et le Congrès américain ne tiennent aucun compte en édictant les ordonnances du Nord-Ouest de ceux qui occupent déjà les grandes plaines, les Indiens. S'il est un auteur de bande dessinée qui a rendu justice aux Indiens d'Amérique, c'est bien Derib. Pour les enfants, il crée en 1970 Yakari, avec le scénariste Job, dans la presse suisse. Yakari est un sympathique petit Sioux qui vit dans un village indien en compagnie de ses parents et de sa copine Arc-en-Ciel. Grâce à son ami Grand Aigle, il sait parler aux animaux qui sont ses compagnons de jeu mais aussi d'aventure. Yakari, chevauchant son fidèle petit tonnerre, parcourt les grands espaces de l'Ouest à la recherche de nouvelles découvertes et de nouveaux amis. Castors, ours, chevaux sauvages sont les véritables héros de cette bande dessinée écologique à la fois drôle, tendre et passionnante, où l'homme n'a pas toujours le beau rôle.
À nous de jouer, petit tonnerre!
Accroche-toi, Yakari!
Sois prudent!
Destinée à un public plus âgé, la deuxième série de Derib, Buddy Longway, débute en 1972 dans l'hebdomadaire Tintin. À travers le personnage de Buddy Longway, le lecteur découvre l'histoire d'une famille de pionniers dans le Grand Ouest américain au milieu du 19e siècle. Fils d'un couple d'immigrants irlandais, Buddy devient trappeur et épouse Chinook, une jolie squaw Sioux. Bientôt complétée par deux enfants, Jérémy et Kathleen, la famille doit affronter de multiples dangers. Indiens belliqueux, soldats déserteurs, hors-la-loi, nature hostile. Véritable hymne à l'homme rouge, la troisième grande saga de Derib, publiée dans Tintin à partir de 1978, s'intitule Red Road. On y suit le destin de Pluie d'Orage, jeune indien du 19e siècle qui, après avoir rencontré les esprits, devient le guide spirituel de son peuple sous le nom de Celui qui est né deux fois.
Au nom de la tribu, merci, regarde roi. Les autres chasseurs, eux, n'avaient rien rapporté.
Cela va nourrir et réchauffer les corps qui ont si froid. L'hiver est rude cette année, mais les esprits sont avec nous.
Les esprits et mon père surtout. Normal, c'est le meilleur chasseur de la tribu.
Je n'ai pas eu beaucoup de mérite. Le Wapiti est arrivé droit sur moi, affolé, comme s'il fuyait une menace terrible.
Quelle créature a pu faire fuir un Wapiti?
Un prédateur redoutable, ça c'est sûr.
Certains Américains veulent imposer par la force leur civilisation. Pour eux, les indigènes doivent disparaître par des moyens violents, mise sous tutelle dans des réserves, tactique de la terre brûlée, guerre, répression. Mais ce sentiment n'est pas partagé par le gouvernement fédéral et par l'opinion publique de l'Est. Certains philanthropes, journalistes et ethnologues militent pour le respect des Indiens et pour l'arrêt des massacres après la guerre de sécession. L'armée américaine protège les convois de chariots traversant les grandes plaines. Les tuniques bleues se conduisent souvent de la pire des façons, massacrant, pillant, volant et brûlant des villages entiers, notamment à Wounded Knee en 1890. La principale défaite des soldats américains a lieu en 1876 à Little Big Horn dans un affrontement entre le 7e de cavalerie et une union de tribus Sioux et Cheyenne, au cours duquel le général Custer, commandant le régiment, trouve la mort. Cette dernière victoire des cavaliers de la plaine est racontée dans un album de la série Alexis McCoy de Gourmelin et Palacios. Sosie de Robert Redford, McCoy est basé à Fort Apache, où il est sergent-major d'un peloton d'éclaireurs du 3e régiment de cavalerie. Forte tête mais excellent soldat, il accomplit des missions dangereuses en compagnie de son ami Charley. Réaliste mais ne manquant pas de séquences cocasses, Alexis McCoy débute en 1974 dans le mensuel Lucky Luke. La plus antimilitariste de toutes les sagas en bande dessinée est incontestablement les Tuniques Bleues de Cauvin et Lambille. Lancée dans Spirou en 1968 à la suite de la décision de Maurice de quitter les pages de l'hebdomadaire, les Tuniques Bleues présentent l'antagonisme entre le sergent Chesterfield, un bon soldat pour qui servir son pays est un devoir, et le caporal Blutch, antimilitariste farouche qui ne pense qu'à déserter. Il y a quelques années, le scénariste Raoul Cauvin nous racontait la création des Tuniques Bleues.
C'était la grande époque des les soldats bleus, les Tuniques Bleues à l'époque, les films qui passaient à la télévision et tout ça. Et quand j'ai commencé les Tuniques Bleues, c'était comme ça que j'ai commencé. Je connaissais même pas la guerre de Sécession, c'est arrivé par après, ça. Je me suis investi dans la guerre de Sécession, pas après. Mais au début, c'était vraiment des histoires passe-partout, quoi. Je veux dire, dans les premiers, il n'y a rien comme fait historique, mais à partir du 7 ou 8e, je crois que tous partent d'un fait historique. Tous. Même si ce n'est qu'un fil très ténu, comme les ballons, comme Bull Run, comme même les derniers que je fais, il y a toujours un départ d'authenticité quand même. Ben, c'est une guerre à la con comme toutes les guerres, quoi. C'est là où j'explose quand je parle du héros. Le héros, pour moi, n'existe pas. Les vrais héros sont morts, et s'ils avaient leur coup à refaire, ils ne seraient pas morts. Parce que le héros, c'est le mec qui se retrouve dans une situation dans laquelle il ne peut plus s'en sortir, et il meurt sur place. Et s'il s'en sort, j'ai toujours un doute. Je crois qu'il y en a d'autres qui sont restés pour lui à sa place, et j'ai toujours un doute. Je ne crois pas au héros.
Hear that lonesome whippoorwill, he sounds too blue to fly. The midnight train is whining low, I'm so lonesome I could cry. I've never seen a night so long, when time goes crawling by. The moon just went behind a cloud to hide its face and cry. The silence of a fallen star lights up a purple sky. And as I wonder where you are, I'm so lonesome I could cry. I'm so lonesome I could cry.
Captivant, 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 captivant.
Ils sont fous ces Romains.
Marc Dacier.
Comment la bande dessinée illustre-t-elle la conquête de l'Ouest ? C'est la question qui nous intéresse ce soir. Au cours du 19e siècle, la colonisation de l'Ouest sauvage est encouragée par le gouvernement fédéral. En 1790, on recensait environ 100 000 Américains à l'ouest des Appalaches. Ils sont près de 7 millions en 1840. Les colons empruntent les pistes de l'Oregon ou de Californie dans des chariots bâchés et surchargés. La traversée du continent est une véritable aventure pleine de dangers. Le blizzard dans les montagnes rocheuses, les attaques des Indiens attendent les pionniers. Les convois avancent à la vitesse d'une vingtaine de kilomètres par jour. Devant eux, les bisons fuient et le mode de vie des Indiens s'en trouve bouleversé. Le long des pistes sont érigés des forts qui se transforment rapidement en marchés. On voit même apparaître dans la seconde moitié du 19e siècle les premiers hôtels le long des routes. L'écrivain américain Mark Twain a décrit ces convois de pionniers dans son roman intitulé « Mes folles années » et a certainement inspiré au scénariste Greg l'idée de « Go West », une histoire dessinée par Derib en 1971 dans Tintin. Dans Go West, Barnaby, comptable sans travail, le gros Homer, les enfants Barbara et Percy et leur chien T-Bone et quelques autres quittent New York afin de partir à la conquête de l'Ouest à bord de leur chariot. Ce sont les multiples dangers rencontrés par ces pionniers que raconte cette saga qui ne manque ni d'humour ni de suspense. Dans l'imaginaire américain, la frontière est une limite mouvante entre les États en structuration de la colonisation du continent américain et les peuplades indigènes. Le Far West représente alors des milliers d'hectares de terre et des opportunités de réussite. Lorsque se termine la guerre contre le Mexique, la Californie s'ajoute aux États de l'Union et la frontière cesse d'être une limite au-delà de laquelle les ressources en bison et terre sont supposées inépuisables. La Californie se développe ensuite par le biais de l'interface pacifique, attirant Chinois et Européens qui ont fait le voyage par bateau. C'est ensuite la ruée vers l'or, fièvre qui fait pousser certaines villes comme des champignons. Serge Le Tendre et Olivier Taduc ont choisi ce contexte pour le western qu'ils ont créé en 1997, Chinaman. Comme son titre l'indique, cette série a pour héros un Chinois. Lorsque le jeune Chong Long Han débarque à San Francisco, il est le garde du corps d'un maître puissant. Après la mort tragique de la belle Kim, il abandonne les siens et devient un justicier solitaire sous le nom que lui ont donné les Blancs responsables de ses malheurs, Chinaman. En 1858, les lignes de diligence assurent des liaisons régulières entre San Francisco et Saint-Louis. Les pistes sont progressivement abandonnées avec le développement des liaisons ferroviaires, surtout après l'achèvement du premier chemin de fer transcontinental le 10 mai 1869. La maîtrise du territoire américain passe aussi par la mise en place du Pony Express, le premier service postal qui allait du Missouri à la côte ouest de 1860 à 1861. Le courrier était alors acheminé à dos de cheval. Mais en 1861, le télégraphe transcontinental permet une liaison instantanée entre les deux extrémités du pays. Créé en 1974 dans l'éphémère mensuel Lucky Luke par Laurent Sarlet et Michel Blanc-Dumont, la saga de Jonathan Cartland propose une vision originale de la conquête de l'Ouest. Ce western au ton nouveau, loin des récits héroïques, favorise la réflexion plus que l'action. Les scénarios lents et poétiques de Laurent Sarlet sont superbement illustrés par Michel Blanc-Dumont. Écoutons celui-ci nous parler de la façon dont Jonathan Cartland confronte des personnages d'immigrants européens avec les Indiens.
Oui, c'était aussi une volonté d'en faire quelque chose de différent, quoi. Et puis, dès le départ, il y avait une volonté dans Cartland de... On s'est toujours dit, nous, on n'est pas d'origine américaine, on n'est pas Arthur Penn, etc. Et on est des gens qui ont toute notre culture et autant que ça serve. Et puis, on a considéré que les immigrants étaient des gens des mêmes origines que nous, donc on a autant se servir de ça, quoi, ce qui faisait un apport. Et puis en plus, on s'est aperçu, c'est que à chaque fois qu'on inventait un personnage un peu bizarre, on tombait sur des gens qui avaient à peu près les mêmes trajectoires aux États-Unis. Donc c'est tout est possible dans un pays comme ça, on peut tout inventer. Hein.
Just to face, ready to lead to. So that's one. We are.
RVE sur 103.7.
Au Captivant, le magazine de la bande dessinée, on s'intéresse ce soir à la conquête de l'Ouest. Le personnage le plus mythique du western, au cinéma comme dans la BD, c'est le cow-boy. Devenu le symbole de l'aventurier américain, le cow-boy est avant tout, comme son nom l'indique, un vacher, un gardien de bovins. Durant les 20 années qui suivent la guerre de sécession, les cow-boys convoyaient d'imposants troupeaux de bétail depuis les prairies du Nord Texas jusqu'aux villes de terminus ferroviaire du Kansas. À la fin du voyage se trouvent les peu recommandables cow towns, villes vachères telles qu'Abilene, Wichita ou Dodge City. Les cow towns deviennent vite un terrain d'action privilégié pour les businessmen, les joueurs professionnels, les rois du revolver et autres prostituées. Et bien évidemment, les problèmes arrivent vite. Les citadins choisissent alors un shérif chargé de faire respecter la loi. La plupart du temps, il est élu pour un an ou deux. Sur la poitrine, il porte une étoile de métal. Pour faire penser à la justice divine, celle-ci est souvent une étoile de David à six branches. Le shérif doit aussi collecter les impôts et maintenir le bon état des routes. Il a des adjoints pour arrêter les criminels et des cellules pour les détenir en attendant un procès. En tout cas, il doit obéir au juge, mais aussi au marshal, un chef de police nommé par le comté ou par Washington. Jerry Spring, le héros créé par J.G. en 1954 dans Spirou, est précisément un marshal itinérant. Il parcourt les grands espaces de l'Ouest sur son cheval Ruby afin de remplir les missions qui lui sont confiées. Dès sa première aventure, il rencontre un Mexicain rondouillard et râleur, Pancho, qui devient son compagnon de route. Longtemps sans domicile fixe, il finit par s'installer dans un ranch en Arizona où il élève des chevaux. Jerry Spring devient donc le patron d'un ranch, exerçant ainsi le même métier que Comanche, l'héroïne imaginée par Greg et Herman en 1969 dans le journal de Tintin. La saga de Comanche commence par l'arrivée à Greenstone Falls, au cœur du Wyoming, d'un homme venu de nulle part, Red Dust. Embauché au ranch 666, où tout va mal, il devient rapidement le contremaître de la maîtresse des lieux, Comanche, jolie brune qui sait ce qu'elle veut. Des personnages sympathiques et pittoresques entourent le duo, le vieux Ten Gallons, râleur et amateur d'alcool, Toby Face Sombre, un jeune noir souvent victime de la couleur de sa peau, Tenderfoot Clem, dit cheveux fous, un grand gaillard qui sait se servir de son arme. Interviewé sur RVE en 1996, le scénariste Greg nous avait expliqué pourquoi Comanche a un rôle moins actif que les personnages masculins qui l'entourent.
Quand il faut réellement diriger un ranch, une équipe comme ça, elle est toujours plongée dans ses comptes, elle est souvent à son bureau. Je crois que c'est un petit peu comme si vous me disiez, tiens, le patron du journal où travaille Clark Kent quand il n'est pas Superman, il pourrait avoir un rôle plus important. Mais non, il dirige un journal. Elle dirige le ranch, c'est la patronne, Comanche. Et en fait, les cinq hommes qui travaillent là pour elle, ils sont Comanche. C'est le ranch. C'est le 666, c'est le nom du ranch. Ne pouvait pas convenir, c'est pas un beau titre ça pour une série d'albums. Comanche, ça sonne. Cela dit, si il faut. Vous savez, dans certains albums, elle fait quand même le coup de feu, hein. Elle a même un ou deux cadavres sur la conscience, notre amie. Donc c'est pas une enfant de cœur. Mais dans la réalité, c'était tout de même surtout un travail d'homme. Hein. Le bétail, le tout, c'est pas un truc de femme. C'est pas faire du sexisme. Ça, c'est savoir que passer 10 heures à taper sur des piquets pour faire des enclos pour le bétail, il y a peu de femmes qui avaient le maillet, le truc pour les biceps pour faire ça. Donc il y a une certaine logique dans tout ça aussi.
D'abord lieutenant de cavalerie détaché dans la garnison de Fort Navarro près de la frontière mexicaine, puis shérif ou marshal, Mike Steve Blueberry deviendra le plus célèbre aventurier de la bande dessinée western française. Blueberry parcourt l'Ouest avec des compagnons de rencontre dont le vieux Jimmy McClure, amateur de boissons fortes et ancien prospecteur, Redneck, coureur de piste et redoutable tireur, ou la belle Chihuahua Pearl, chanteuse de saloon au charme de laquelle il n'est pas insensible. Baptisé par les Indiens Navajos Tinapa, frère de sang de Cochise, Blueberry est un individualiste sans cesse recherché par les autorités. C'est Jean-Michel Charlier qui écrit ce grand western mis en image par Jean Giraud. La série débute en 1963 dans l'hebdomadaire Pilote. À la mort de Jean-Michel Charlier, Jean Giraud assure seul la poursuite de la saga.
Mais bon Dieu, Jimmy,
ça regarde,
Jimmy,
poussé.
T'es malade, à quoi tu joues, nom de Dieu, tu crois où, là? Je te rappelle que t'es mon adjoint.
Ce fumier de dentiste, il a essayé de me tuer.
Repose ce type, tout de suite. Pose-le par terre, je t'ai dit.
Per favore.
grouille.
Les gars, allez-vous-en, restez pas là.
Où est-ce que tu te crois? On n'a pas le droit de jeter les gens comme ça par les fenêtres. On représente la loi.
Eh ben, je démissionne.
Foutez-moi de corps.
Parce qu'il mérite une bonne leçon.
Oh, hey, tu te calmes. Tu gardes ton sang-froid.
Je suis vivant.
Monsieur, ça va aller?
Oui, je suis vivant, c'est un miracle.
Et puis, vous en faites pas, vous serez remboursé pour votre fenêtre.
Merci beaucoup.
Comment la bande dessinée raconte-t-elle la conquête de l'Ouest? Elle le fait notamment en s'inspirant des grandes figures historiques, Buffalo Bill par exemple. De son vrai nom, William Frederick Cody, ce fameux chasseur de bisons est sans doute avec Robin des Bois, le héros récurrent le plus présent dans la presse dessinée. Tantôt ami des Indiens, tantôt éclaireur de l'armée américaine, parfois cavalier solitaire, on le reconnaît à sa petite moustache, à son bouc, aux vêtements de daim des trappeurs qu'il porte toujours. Aux États-Unis, un strip quotidien est distribué par United Features Syndicate de 1950 à 1956. Buffalo Bill a également fait la joie de nombreux éditeurs de comic books dès l'après-guerre. Notons les fascicules publiés en 1949 par Street & Smith, imaginés par le débutant Doug Wilday. En France, le grand dessinateur René Giffé crée un super Buffalo Bill dans les pages des hebdomadaires Tarzan et l'Intrépide de 1946 à 1960. Autre grande figure historique, à ne pas confondre avec Buffalo Bill, Wild Bill Hickok. L'ancien marshal Dave Lynn est mort d'une balle dans le dos alors qu'il jouait au poker dans un saloon de la ville de Deadwood. La mort de Hickok est le point de départ d'un album de Herman paru en 1999 chez Dupuis et intitulé « On a tué Wild Bill ». On y suit l'histoire de Pete, un jeune garçon sans attache qui a assisté à l'assassinat et qui cherche à survivre dans le climat d'insécurité et de violence de la conquête de l'Ouest. Paru chez Delcourt en 1996, l'album « Chien de prairie » écrit par Foster pour le dessinateur Berthet raconte l'histoire de G.B. Bone, buveur invétéré et pilleur de banque, qui vit en solitaire sa descente vers la vieillesse. La rencontre avec un jeune orphelin sourd-muet lui apporte une nouvelle raison de vivre, mais les chasseurs de primes sont à ses trousses. Les héros de « Chien de prairie » vont croiser une figure historique de l'Ouest, une femme nommée Martha Jane Canary, plus connue sous le surnom de Calamity Jane. À l'âge de 16 ans, devenue orpheline, Jane quitte le Montana où elle vivait avec ses parents et part à l'aventure. Sa légende commence. Devenue scout, guide pour le général Custer, elle devient la première femme blanche à pénétrer dans les Black Hills, le territoire sacré des Sioux. C'est un officier à qui elle a sauvé la vie pendant une embuscade qui la surnomme Calamity Jane, l'héroïne des plaines. Elle est ensuite chercheuse d'or, cowgirl, patronne d'hôtel et l'héroïne d'un des meilleurs albums de la série Lucky Luke. Créé en 1946 par le dessinateur Maurice dans le journal de Spirou, Lucky Luke est incontestablement le plus célèbre et le plus populaire de tous les cow-boys solitaires de la BD. Chevauchant sa monture Jolly Jumper, de plus en plus critique vis-à-vis de son maître et qui ne s'arrête jamais de courir la prairie, Lucky Luke croise les grandes figures de l'histoire de l'Ouest. Outre Calamity Jane, citons Billy the Kid, Jesse James, le juge Roy Bean, White Earp et Doc Holliday, ou encore Buffalo Bill. Très documenté, surtout à partir de l'arrivée du scénariste René Goscinny en 1955, la saga de Lucky Luke donne une vision humoristique de l'histoire de l'Ouest qui reste fondée sur une réalité historique incontestable. Parmi les autres personnages réels croisés par Lucky Luke, on ne peut pas ne pas citer les redoutables frères Dalton. Ceux-ci sont nés dans une famille de 15 enfants, 10 frères et 5 sœurs. Le père était un fermier respectable, ancien héros de la guerre du Mexique. La mère était la tante d'un autre gang, celui des frères Younger. Quatre des frères de la famille Dalton deviennent des hors-la-loi, Bob le cerveau, Bill, Gratt et Emmett. Une fois leur tête mise à prix, leur vie de cavale prend fin lors de l'attaque sanglante des banques de Coffeyville le 5 octobre 1892. Cet épisode est relaté dans le sixième tome des aventures de Lucky Luke, hors-la-loi. Joe, William, Jack et Avrel, les Dalton que Lucky Luke raccompagne régulièrement au pénitencier, ne sont autres que les cousins de Bob, Bill, Gratt et Emmett. Des cousins Dalton imaginés par René Goscinny, un coup de génie.
Et Lucky Luke ?
Je suis là ! Coucou ! Avrel, ne touche pas à ton colt.
Aïe ! Oh ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Lucky Luke ! Lucky Luke ! Lucky Luke !
Tu devrais être content, Joe ! Tu l'as enfin trouvé !
Quand on me cherche, on me trouve.
Situé dans le sud de l'Arizona, Tombstone est à l'origine un campement pour prospecteurs d'argent. Elle se peuple très vite de commerces, saloons, maisons closes et de toute une faune attirée par la possibilité de s'enrichir rapidement. Arrivé de Dodge City pour protéger les intérêts des entrepreneurs, le shérif Wyatt Earp, ses frères Virgil et Morgan et son ami Doc Holliday vont vivre une rivalité grandissante avec le clan des Clanton qui aboutira à la fusillade de Hockey Corral le 26 octobre 1881. Cet événement à la fois historique et mythique inspirera de nombreux films mais aussi des albums de BD. Un Blueberry et un Lucky Luke portent le même titre, Hockey Corral. C'est la fin de cette émission spéciale réalisée par Christian. On se quitte avec le thème musical composé par Jerry Fielding pour le western. José Wells sort la loi de Clint Eastwood. Bonsoir à tous, à la semaine prochaine.